Bonjour et bienvenue à Panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Au sommaire, les investissements RDC subissent les effets des affrontements entre le M23 et les FRDC. Les actions de l'entreprise minière Banro Corporation ont chuté cette semaine à la bourse de Toronto. Et puis au Katanga également, l'insécurité fait craindre les opérateurs économiques. L'entreprise minière MMR a été obligée de réduire sensiblement ses activités suite au départ de la MONUSCO de la cité de Mitouaba. Panorama économique à la présentation, Jocelyne Moussa Opondé et Agathe Mpona Elema. Nous recevons pour commenter et analyser l'actualité de la semaine Franck Maïzo, chercheur indépendant en matière d'économie et enseignant dans plusieurs universités de Kinshasa. Monsieur Franck Maïzo, bonjour.
Bonjour.
Panorama économique, le dossier.
Les affrontements entre le M23 et les FRDC produisent des effets sur les investissements en RDC.
Les actions de Banro Corporation ont chuté en bourse cette semaine et selon l'agence de presse Reuters, les actions de cette entreprise minière avaient chuté de 9% à la bourse de Toronto mardi après que le M23 ait pris le contrôle de Goma. L'usine de Banro, située à Twangiza au sud Kivu, exploite de l'or depuis octobre 2011 et selon ses prévisions, Banro devrait produire 120 000 onces d'or par an.
Et l'insécurité dans les territoires de Mitouaba au Katanga a contraint l'entreprise minière Mining Mineral Resources à réduire sensiblement ses activités depuis quelques jours.
C'est la déclaration faite ce mardi à Radio Capi par le responsable du département de géologie de MMR pour Élisée Kazadi. Le dernier échec dans les négociations entre la MONUSCO, le gouvernement provincial du Katanga et les ONG humanitaires avec des éléments Maïmaï en est la cause. Paulin Mounanga, notre confrère qui est à Lubumbashi, donne des précisions.
Selon les responsables de MMR, il s'agit de sécuriser leur agent. À deux reprises, ils signalent avoir été obligés d'évacuer des mines Toaba leur agent en catastrophe. Et cette situation instable sur le plan sécuritaire ne permet plus à l'entreprise de mieux fonctionner. La production des minerais a sensiblement baissé, souligne le chef du département de géologie. Elle est actuellement de 30 à 40 tonnes de cassiterite par mois au lieu d'une centaine de tonnes auparavant. Élisée Kazadi évoque la psychose qui règne dans la cité de Mitouaba avec le départ des casques bleus de la MONUSCO.
Actuellement, nous ne faisons qu'une exploitation, mais nous avons tous nos engins sur place, nous avons une équipe qui est en place. Ce qui a fait que nous puissions réduire nos activités, c'était la psychose dans la cité de Mitouaba avec le départ de la MONUSCO. Nous avons été obligés de réduire les effectifs de nos agents et observer. C'est un très grand manque à gagner. MMR s'est inscrit non pas seulement comme une société minière. Nous avons de grands engagements sur le plan social. Nous avons un plan de développement industriel et aujourd'hui, se retrouver à l'arrêt, c'est un manque à gagner évident.
Cette décision de MMR de réduire ses activités à Mitouaba aura un impact social négatif sur la population de cette cité, a reconnu Élisée Kazadi. Lubumbashi, Paulin Mounanga pour Echo d'économie.
Voilà, monsieur Franck Maïzo, vous êtes notre invité. Vous venez de suivre ces informations. Votre réaction par rapport à ces informations, l'insécurité au pays, la guerre qui vient encore ternir l'image de la RDC alors que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour attirer les investisseurs étrangers. La guerre dans l'est du pays vient tout bouleverser.
Oui, mais c'est tout à fait évident parce que quand il y a la guerre, l'argent, dit-on, que n'aime pas le bruit de bottes, à moins que vous soyez un investisseur téméraire. Mais quand il y a la guerre, il y a l'insécurité, tant sur le plan national que sur le plan juridique et judiciaire, les investissements ne peuvent pas prospérer parce que quelqu'un ne voudrait pas venir. Il y a ce qu'on dit en économie, le risque. Il faut évaluer les risques. Mm-hmm. Tout investissement est un risque, mais il faut évaluer les risques. Si le risque est plus fort, vous n'allez pas risquer votre argent, surtout dans les domaines miniers. Les investissements demandent un peu beaucoup plus d'argent. Et puis, il faut que les agents soient sécurisés. Mm-hmm. Sinon, dans le cas contraire, les gens n'aimeront pas investir. Sinon, c'est de la pire aventure.
Mais c'est vraiment une grosse perte pour la RDC. Comment pouvons-nous nous ressaisir et pour rattraper un peu ce que la guerre nous aurait fait perdre?
Bon, c'est difficile de les dire d'emblée comme un coup d'épée magique qu'on peut redresser la situation d'un jour au lendemain. J'aimerais dire là que d'abord c'est la part des autorités. Ils doivent sécuriser les investisseurs qui viennent pour que les autres aussi soient incités de venir. Parce que j'entends beaucoup dire c'est le code des investissements. Non, le code des investissements ne suffit pas. Mais il faudrait qu'il y ait une sécurité judiciaire, juridique, pour que les investissements arrivent. Uh-huh. Et puis quand il y a de l'insécurité comme ça, vous allez travailler comment? Vous avez investi votre argent, vous avez investi, bon, vous attendez quelque chose en revanche. Mais si vous ne savez pas travailler, il y a la capacité installée, ce que nous appelons généralement DUC, degré d'utilisation de la capacité installée. Mais si vous travaillez en deçà du DUC, mais c'est... Comme vous avez dit tout à l'heure, là, dans votre reportage, on a évacué un certain nombre de personnels. Bon, la fonction de production en économie à court terme nous renseigne quoi? Nous renseigne qu'à court terme, le capital reste invariable, mais la production varie en fonction de la main-d'œuvre. Quand on réduit la main-d'œuvre, il est ipso facto... il est ipso facto que la production doit baisser. Mm-hmm. Alors voilà, dans ce sens-là, qu'il y aura contraction des recettes. Et puis bon, si ça continue, si ça perdure, bon, je me dis que ce n'est qu'un début. Le pire est à venir.
Voilà. Et on parlait tout à l'heure de Banro Corporation qui a perdu des actions en bourse. Mais cette semaine, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo aurait déclaré que ce sont ces multinationales qui seraient à la base de la situation dans l'est du pays. Finalement, on se demande quelle attitude afficher vis-à-vis de ces firmes qui, en même temps, créent l'emploi et apportent des capitaux.
Oui, mais les multinationaux, nous savons, mais maintenant c'est le monde est dirigé par les intérêts. Quand ils arrivent, d'une part, l'insécurité pour les uns, bon, s'ils peuvent avoir gain de cause, prendre les minéraux sans trop de contraintes, sans que l'État puisse prélever l'impôt qui est dû, mais vous savez qu'ils ne peuvent que vouloir que la situation perdure. Mais là-dessus, je n'ai pas toutes les informations pour affirmer que ce sont ces multinationales. Parce qu'on a parlé autrefois là de la guerre de Brazzaville, c'était la guerre des elfes qui a amené que le régime soit changé. Mais on accuse les ONG, mais finalement, il y a une confusion totale sur la situation de l'Est. Seuls les gens qui vivent cette situation peuvent nous dire exactement de quoi il en est. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons avoir un œil regardant. OK? Si les investisseurs arrivent, bon, quand ils arrivent, nous devons savoir qu'est-ce qu'ils font, parce qu'il y a des services de renseignement pour ça. Partout, il y a des services de renseignement. Nous devons avoir la vraie information. Que font-ils?
Exactement.
Ils le font pourquoi? Et en dehors de ces investissements, qu'est-ce qu'il y a derrière ces investissements? Je crois que c'est un problème de la responsabilité. Les autorités doivent être responsables, doivent prendre des décisions qu'il faut à la place qu'il faut. Je crois que même quelqu'un, même un diable, s'il arrive au milieu des saints, il va avoir les attitudes des saints. Ah, si vous voulez devenir diable, ils vous feront devenir diable.
Voilà, et actuellement à Goma, les activités socio-économiques reprennent progressivement dans la ville depuis mardi sous occupation du M23.
Sur les marchés de Goma, certains produits vivriers commencent à se raréfier, entraînant du coup une augmentation de leur prix. De leur côté, les responsables du M23 ont appelé tous les opérateurs économiques, les services publics de l'État et les banques à reprendre du service. Les commerçants, eux, déplorent tout de même quelques cas de pillage. Bernard Danyangui.
Au poste frontalier dit Petite Barrière à Goma, nous avons observé ce jeudi matin une longue file de petits commerçants qui attendent sagement. Tous jetons d'entrée à la main, ils entrent au Rwanda pour s'approvisionner en produits vivriers de première nécessité. C'est entre autres la tomate, les poireaux, la pomme de terre, les bananes plantains, etc. En effet, depuis le début des affrontements, jeudi, dans la région de Goma, ces produits vivriers se sont raréfiés sur le marché et le peu qui y en avait ont vu leur prix grimper. Au centre commercial de Birere, tout comme au marché central, au moins 80% de commerces sont ouverts ce jeudi. Seulement, certains commerçants déplorent le vol de leurs marchandises la nuit dernière. Deux boutiques ont été aussi forcées et pillées lors des affrontements dans la ville de Goma lundi et mardi, dit le président des boutiquiers. Ce jeudi matin, le département de communication de M23 a réuni les agents de la territoriale, les opérateurs économiques, les banquiers et les régies financières de l'État. Il leur demande de reprendre le service de ce jeudi. Goma, Bernardin Gagné, Radio Capi.
Voilà, Monsieur Franck Maïzou, Goma qui, en quelque sorte, dépend du Rwanda pour avoir quelques produits alimentaires, alors que, quelque part aussi, Kinshasa dépend de cette ville. La situation risque d'être plus difficile pour Kinshasa.
Bon, oui, la situation ne risque pas d'être très difficile, sauf pour certains produits. Ça, il faut le confirmer parce que le haricot vient de là et chaque fois que Goma a des sérieux problèmes, au niveau de Kinshasa, ça va se sentir, il y aura surchauffe des prix. Mais bon, Goma aussi, bon, voilà la guerre. Parce que je sais que les centres-villes dépendent de l'intérieur. Si l'intérieur est pris, il y a des guerres, les gens ne savent pas cultiver. Et ça, c'est une situation purement normale. Et que l'approvisionnement se ferait du côté du Rwanda, c'est tout à fait normal. Et l'offre et la demande jouant sur le marché, les prix vont monter.
Ouais, et le mouvement du M23 qui demande aux opérateurs économiques de reprendre leur activité, est-ce que vous pensez que c'est facile de travailler dans ces conditions?
Oui et non. Facile parce que ce sont les maîtres de lieu. Ils peuvent demander à tout le monde d'évacuer leurs occupations parce qu'ils peuvent aller même jusqu'à la contrainte. Mais non, parce que dans un climat de psychose, d'insécurité, personne, surtout les PME, les petits commerçants, ne voudront pas perdre leur capital. Parce que quand il y a affrontement, et que généralement, bon, il y a des pilleurs qui en profitent pour prendre ce dont ils ont besoin. Mais je trouve que c'est une situation délicate. Parce que là, soit vendre leurs produits et garder aussi les produits, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Ils préféreront peut-être vendre.
Oui.
Mais en vendant, qu'est-ce qui rassure? Rien ne rassure. Donc, en sortant la marchandise, et là, vous allez remarquer que, même s'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, il va y avoir une augmentation des prix. Dû à quoi? On va mettre une prime de risque.
Mm-hmm.
Ils vont mettre une prime de risque. Bon, en sortant mes marchandises, je peux gagner tout comme je peux perdre.
Mm-hmm.
Pendant les périodes troubles, c'est comme ça.
C'est donc un réflexe normal d'un opérateur économique.
Oui, ce sont des réflexes normaux.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques informations en bref. Hausse du prix de la farine de maïs à Lubumbashi. Un sac de 25 kilos est passé de 13 à 15 000 francs congolais. C'était mardi dans les supermarchés de la ville.
Les importateurs de cette denrée indiquent que la Zambie, qui fournit la meilleure qualité de farine, a fermé ses usines, signalant que la ville de Lubumbashi a connu une stabilité des prix de la farine de maïs pendant plus de 2 ans.
Et à Lodja, au Kasaï oriental, on parle plutôt d'une baisse des prix des denrées alimentaires, c'est là depuis plus d'une semaine.
Une baisse de 50% sur plusieurs produits, une mesure de riz qui se vendait à 400 francs congolais revient aujourd'hui à 200 francs, la mesure de farine de manioc qui coûtait 100 francs se vend actuellement à 50 francs congolais. La bouteille d'huile de 500 francs se négocie à 300 francs. Et selon les responsables territoriaux en charge de l'agriculture, la ville de Lodja est en pleine période de récolte, ce qui justifierait cette baisse des prix.
Et les paysans qui viennent vendre leurs marchandises à Matadi ne paieront plus la taxe dite de colisage. Décision du maire de cette ville.
Jean-Marc Nzeidio, en tout cas pour lui, la perception de cette taxe constitue une tracasserie auprès des paysans. Elle a même occasionné une hausse de prix des marchandises sur les marchés. La taxe autorisée, a-t-il dit, est la taxe d'étalage qui est reconnue dans la nomenclature des taxes dues à la province.
Franck Maïzou, vous avez un commentaire à faire par rapport à l'une ou l'autre information?
Lubumbashi, je vois dans les Katanga, Bon, s'ils dépendent de la Zambie, c'est tout à fait normal. Quand les usines ferment, c'est que le produit devient rare et les prix vont augmenter. Mais je crois que la meilleure des choses à faire, c'est que pour nous sommes un pays à 80% agricole, il faudrait diversifier les sources de d'approvisionnement. C'est comme ça que, bon, quand une source tarit, on peut recourir à une autre source.
Mais est-ce que vraiment notre dépendance, la dépendance en tout cas de Lubumbashi à la Zambie, se justifie dans la mesure où il y a des contrées comme Kamina et tout ça qui produisent Congolo. Beaucoup de maïs, Congolo et tout. Pourquoi, que faire pour que, en tout cas, cette ville soit indépendante de ce point de vue?
Bon, je crois que les gens ont aimé la facilité. Et parfois, nous prenons des décisions quand il y a des urgences. Quand il y a un problème qui surgit, les gens commencent à résoudre. Je crois qu'il faut gouverner, c'est prévoir. Je me dis au Katanga, je n'ai pas encore été au Katanga, mais je me dis au Katanga, beaucoup plus les gens sont dans les activités minières, parfois négligent les activités agricoles. Je crois que, bon, il y a eu le service national qui a fait un peu beaucoup d'efforts à ces propos, et je crois que les autorités aussi, certaines personnes, je veux des plantations, ils commencent à s'intéresser à l'agriculture. Donc c'est cette attention qu'on a portée beaucoup plus sur les mines qui peuvent justifier cette situation, parce que je me dis que les terres arables ne manquent pas au Katanga. Donc je crois que c'est un problème de gouvernance et de prévision.
Panorama économique, matières premières.
Il s'est tenu jeudi et vendredi à Bujumbura, au Burundi, une conférence internationale sur l'exploitation minière pour le développement durable dans la région des Grands Lacs.
L'un des objectifs de cette conférence, encourager un échange mutuel sur la façon dont le secteur minier peut contribuer au développement durable, une manière de générer la croissance économique et favoriser le bien-être de la population. Une centaine d'experts du secteur minier venus de plusieurs pays ont participé à cette rencontre de deux jours. Notons que c'est la coopération allemande au développement, le PNUD et la CIRGL, ainsi que le ministère de l'énergie et des mines du Burundi qui ont organisé ces assises.
Monsieur Franck Maïzo, pensez-vous qu'on peut envisager un développement durable ou une croissance dans la sous-région avec tous ces problèmes de conflits
Bon, je doute. Dans certains cas, nous avons remarqué que dans certains pays, pendant les guerres, il y a aussi croissance qui s'ensuit, mais bon, je ne suis pas très sûr. Je ne connais pas les résolutions, mais je ne suis pas très sûr qu'on peut penser à une croissance durable et amélioration de la vie de la population. Parce que, d'abord, il y a un problème des textes. Quand les entreprises arrivent ici, on doit être clair dans les textes. Quel sera l'apport de toutes ces entreprises sur la population? Et puis, il y a maintenant, on met beaucoup plus d'accent sur les problèmes environnementaux. On doit tenir compte de tout ça. Mais si les gens voient seulement le volet économique, avoir l'argent et la production et tout ça, et que cela n'a pas de retombées sur la population, je crois que on va se limiter au niveau des slogans. Et puis bon, nous savons que on dit en économie la malédiction des matières premières, le syndrome avec le syndrome hollandais. Le véritable problème, c'est que les gens seront beaucoup plus attentionnés sur les matières premières. Ils oublieront d'autres secteurs qui peuvent être porteurs de la croissance. Là, c'est un problème.
Alors, on ne devrait pas encourager l'exploitation minière?
Non, je n'ai pas dit ça. Tout en encourageant l'exploitation minière, on doit aussi encourager les autres secteurs qui peuvent accompagner. Et que cette exploitation minière ait effectivement l'incidence sur la vie des populations. Parce que qu'est-ce que vous allez remarquer? La population croupit dans la misère la plus noire.
Même les populations des territoires dans lesquels on extrait des minerais.
Oui, mais les minerais sont en train de partir, mais en revanche, la population ne voit rien. Alors, vous allez beau faire des discours, ce sont des discours capitalistes. On voit seulement les intérêts économiques, on ne voit pas les intérêts de l'homme. À quoi sert une croissance sans incidence sur la population. Je crois qu'on doit y veiller. L'exploitation minière, oui, que cette exploitation minière ait de l'incidence sur la vie des populations. Là, vous allez remarquer qu'il n'y aura pas que les mines, parce que s'il y a des retombées sur, parce que nous disons l'économie, il y a d'abord la dépense engendre la production engendre la dépense, le revenu qui finance la dépense. Mais quand il y a de retombées sur la population, vous voyez que la population va consommer des biens et services. Ils ne vont pas consommer les mines. Donc, il y a d'autres sociétés qui viendront présenter certains biens et certains services et il va naître une zone économique donnée. Et puis, la zone va être en expansion. Là, on ne verra pas seulement les mines. On va voir aussi d'autres secteurs, par exemple l'agriculture, comme les gens qui sont là vont vouloir manger, par exemple, les légumes, ils vont la pêcherie, s'il y a des eaux, la pêcherie peut prendre de l'ampleur, ainsi de suite. Et vous allez voir que l'économie va de l'expansion en expansion. Mais quand vous tenez compte tout simplement des mines, vous négligez, alors là, on peut tomber sous le coup de la malédiction des matières premières.
Panorama économique, reportage.
Reportage de la semaine, les Quinois éprouvent d'énormes difficultés à stationner leurs véhicules faute de parking.
Et pourtant, l'aménagement des parkings à Kinshasa pourrait générer des recettes pour la ville et créer des emplois. Je veux plutôt ce reportage diffusé cette semaine, il est signé Aimé Kabouya.
La réhabilitation des différentes artères de la capitale est un signe de développement dans un pays. Mais les autorités devraient prévoir aussi des espaces devant servir de parking. C'est du moins ce qu'affirment bon nombre de Quinois, car actuellement, ce qui existe relève d'une organisation privée. Par ailleurs, ce qui s'observe à travers la capitale est que les sous-commissariats et les communes deviennent des lieux de stationnement. Le prix des stationnements oscille entre 1500 à 3000 francs congolais par jour dans un parking aménagé par la commune ou la police. Mais la gestion de ces recettes reste toujours opaque. En plus, selon les témoignages d'un chauffeur, la tendance est toujours à la hausse dans le sous-commissariat et maison communale. Et comme si cela ne suffisait pas, aucune preuve de paiement n'est fournie.
La police, tout fait à 3000 francs par jour. Bon, moi, quand je parle à qui ça, 3000 francs, tout fait par jour. Bon, je ne sais pas si c'est un nagar, il a arrêté. Attends, qu'est-ce que moi, j'ai 3000 francs par jour, je ne sais pas, attends, il est au bout, par jour, il est au bout, par jour, il est au rien. En tout cas, il est au bout, il est au bout.
Suite aux abus et vols à répétition signalés dans ces lieux, certaines personnes profitent de cette situation pour créer des parkings informels. Une affaire en or, dirait-on, dont les recettes échappent malheureusement au fisc. Témoignage.
Difficultés sur le parking officiel, difficultés même sur le relais Simutuga, au moins un truc de Bungi, la clé de roue Bungi et l'autre Bungi va tirer Bungi. Surtout, ne va pas parking dans la police.
Par contre, les stationnements sur la voirie publique au centre-ville restent gratuits. Parfois, ce sont des jeunes à situation de rupture familiale qui créent des emplacements occasionnels. En contrepartie, le propriétaire du véhicule verse 200 à 500 francs congolais. Toutes les tentatives des autorités provinciales pour organiser cette activité ont toujours échoué. L'analyste économique Al-Kitengi propose quelques pistes de solutions.
Première des choses, donc il faut zoner les différentes catégories d'espaces de parking. Deuxième chose, il faut mettre en place une tarification qui permette aux gens de pouvoir se dire qu'ils ne doivent pas rester trop longtemps là où ils sont pour qu'ils puissent être en mesure de dégager. Troisièmement, il faut de la technologie. Dans tous les pays du monde, il y a des parkings très payés, il y a des parkings payés à l'instant T, il y a des parkings avec abonnement, mais il faut choisir le modèle que l'on a. Et la ville de Kinshasa demande une petite étude pour que cela soit fait de manière scientifique.
Une chose reste vraie, l'investissement dans la construction d'un parking au centre-ville serait une affaire rentable, vu le nombre en hausse des véhicules.
Voilà, Franck Maïso venait de suivre ce reportage de notre confrère Aimé Kabouya. En tout cas, on se dit que ce ne sont pas les secteurs qui peuvent générer des recettes hein, qui manquent en RDC. Il suffit seulement de les capitaliser.
Oui, ça ne manque pas. Mais je crois que c'est un problème d'organisation. Mais quand on aménage les routes, on considère, ce n'est pas le développement. Les gens utilisent à tort et à travers le mot développement. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le problème des parkings. quand vous avez une ville où le trafic devient intense, je crois que c'est à l'État de l'organiser. Comme Alkiteng venait de parler, c'est à l'État de l'organiser. D'abord, on va dire à tel endroit, et le prix est connu. Quand quelqu'un arrive, il dépose son véhicule, le temps qu'il fera, si ça va être payé par heure ou par jour, et c'est bon. Comme Alkiteng a dit, bon, peut-être si c'est toute la journée, bon, là, d'autres personnes manqueront de parking. Regardez comme on a aménagé les routes. Ils n'ont pas aménagé de parking. Vous avez déjà vu un parking dans un rond-point? Ça n'existe pas.
Mais est-ce que les particuliers ne peuvent pas prendre aussi l'initiative?
Oui, mais c'est... faudrait pas éviter le désordre. Mais c'est l'État qui commence. C'est comme ça que certains particuliers le font. Mais est-ce qu'ils le font bien? Ça crée des conflits. Comme quelqu'un venait de dire, vous déposez votre véhicule le matin, vous trouvez dans votre véhicule qu'on a volé les criques, par exemple.
Les pneus sont crevés.
Les pneus sont crevés. Qui paye? Parce que rien n'est réglementé. Il n'y a pas de texte qui l'organise. Je crois que même si les privés vont le faire, mais il faudrait que l'État organise les textes. L'État mette en place les textes. Si quelqu'un sait que, bon, en faisant ceci, voilà, je payerai autant.
Mm-hmm. Okay. Donc ça ne demande pas beaucoup, problèmes. Juste un peu d'organisation.
Un peu d'organisation et de volonté. Mm-hmm. Je crois que c'est possible.
Voilà, Franck Maïzou, c'est par ces commentaires que nous terminons cette émission d'aujourd'hui, Panorama économique. Merci en tout cas d'être venu dans nos studios.
En espérant que ce ne soit pas la dernière fois.
Non.
Voilà, je rappelle que vous êtes chercheur indépendant en matière d'économie, enseignant dans plusieurs universités de Kinshasa. À vous tous qui avez suivi cette émission, merci de votre fidélité. Je remercie également Agathe Mpona qui a présenter cette émission avec moi. Merci Agathe.
Merci Jocelyne, merci à tous nos auditeurs.
Bon week-end à vous tous. Bonjour.